Seigneur, nous te remercions pour cette année que tu as préparée devant nous, pour ce culte que nous pouvons te rendre. Seigneur, merci pour les frères et les sœurs que tu mets auprès de nous. Amen.
Pour ce premier pas du Seigneur, je voulais tout d'abord relire un feuillet de la Bonne Semence. C'est celui du 31 décembre, qui était un feuillet de remerciement, si on peut dire. Merci, mon Dieu, parce que tu m'as créé à ton image, donnant ainsi un sens à ma vie. Merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ sur terre. Merci parce qu'il est mort pour moi pour effacer toutes mes désobéissances à ta loi qui me séparait de toi. Merci parce que je te connais maintenant comme un Père aimant, parfait, fort et éternel. Merci pour ton aide constante, tes signes visibles ou invisibles, mais que je vois par la foi. Merci pour toutes tes promesses, elles me sont précieuses dans mes moments de désarroi. Merci de supporter mes absences, mes faiblesses, mes manquements. Merci de mettre devant moi des solutions auxquelles je n'avais pas pensé. Merci d'avoir de bons projets pour mon avenir, car je sais que tout ce qui viendra de toi est bon pour moi. Merci de mettre sur ma route des personnes qui m'aident et d'autres que je peux aider. Merci parce que tu m'as enlevé la peur de te rendre des comptes après ma mort. Merci parce que tu m'as donné l'espérance d'un bonheur parfait dans ta maison. Merci parce que je verrai Jésus de mes propres yeux. Merci parce que je comprendrai un jour tant de mystères qui aujourd'hui me préoccupent. Merci mon Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour tout. Tous ces remerciements n'auraient pas de sens s'il n'y avait pas eu les deux premiers. Merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ sur terre. Merci parce qu'il est mort pour moi, pour effacer toutes mes désobéissances à ta loi qui me séparait de toi. Tous les autres merci dépendent de ces deux premiers. Et nous allons tout d'abord relire, pour introduire ce moment, ce que notre Seigneur a institué dans la dernière nuit avec ses disciples. On reprendra 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. 1 Corinthiens 11, 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est le premier culte de 2026 et nous allons commencer l'année à la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est un lieu de mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Ce que l'on vient de lire, un lieu de grâce, Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et si nous n'étions pas sauvés, nous ne serions pas à cette table. C'est aussi un lieu d'espérance pour sa résurrection. Et la scène n'est pas un rituel que nous allons répéter dimanche après dimanche durant toute cette année. C'est un acte spirituel profond par lequel nous proclamons notre foi et notre engagement. Commencer l'année par la scène peut vouloir dire « Seigneur, tu es au centre de notre nouvelle année et nous dépendons de ta grâce pour toutes les situations qui se présenteront à nous. Seigneur aussi, nous voulons marcher avec toi. » Et placer le Seigneur au centre de notre nouvelle année, c'est aussi confirmé par le psaume 127, verset 1 « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » La scène a été instituée par Jésus lui-même lors de son dernier repas avec ses disciples, juste avant sa crucifixion, comme on l'a relu tout à l'heure. À travers ce geste du pain et du vin, Jésus nous a donné un devoir de mémoire, faites ceci en mémoire de moi, une alliance par son sang versé. Matthieu 26, verset 28 dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour le pardon des péchés. » Il nous a donné aussi une espérance, celle de son retour. 1 Corinthiens 11, verset 26, que l'on vient de lire, « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La scène, c'est un peu comme un trait d'union qui nous relie au passé par le sacrifice de Jésus à la croix, au présent, par la communion, en partageant ce repas ce matin, Et puis ça nous relie, si on peut dire, à l'avenir par le retour glorieux annoncé de notre Seigneur. Rappelons-nous que notre Seigneur a porté nos fautes, nos blessures, nos faiblesses, comme nous le dit Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Son sacrifice nous a donné la vie. Jean 6, verset 35. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et il faut également se souvenir, en prenant la scène, que notre salut est un don, non un mérite. Éphésiens 2, verset 8, on a lu le début tout à l'heure, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et puis en prenant la scène, se rappeler que nos fautes passées sont pardonnées. Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Son sang a scellé une nouvelle alliance entre Dieu et nous. Alors, que peut-on dire encore de plus sur ce moment de la scène? Peut-être que la Bible aussi nous demande de nous examiner avant de prendre la scène. Le verset 28 de 1 Corinthiens 11, « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Comment le faire? La parole nous le rappelle. On peut prendre deux versets dans le psaume 139. Psaume 139, les versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ces deux versets nous donnent, si on peut dire, la méthode, mais c'est une méthode qui est basée sur notre volonté. Si nous n'avons pas la volonté d'être éprouvés, nous ne verrons pas si nous sommes sur une mauvaise voie. Alors si nous venons à lui dans un esprit conforme à ces deux versets, soyons sûrs qu'il sera à nos côtés tout au long de l'année qui commence. Car Christ est fidèle, il ne varie pas. Hébreux 13, verset 8 nous le rappelle, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors avant de prendre ce premier repas de l'année, soyons confortés dans nos certitudes basées sur la foi. Christ est mort pour nous sauver. Christ est vivant parmi nous aujourd'hui, et puis Christ reviendra. Jean 14, verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et toutes ces certitudes que l'on vient de rappeler, on pourra relire quelques versets pour montrer ce que notre Seigneur a enduré à la croix. On prendra quelques versets dans Marc 15. Marc 15, les versets 17 à 19. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Et puis ensuite on lira les versets 29 à 34. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Rien ne lui a été épargné. Les coups, les crachats, les moqueries, les injures, les provocations, jusqu'au verset 34, où il a subi l'abandon du Père. Il a subi l'abandon du Père pour que tous les merci du feuillet de la bonne semence que nous avons relu soient une réalité pour nous. Alors nous voulons le remercier avant de prendre son repas. Seigneur, comme nous l'avons dit en entame, merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir donné ta vie à la croix pour nous sauver. Nous avons remis devant nos yeux ce que tu as enduré pour cela. Alors nous ne pouvons te dire que ce matin, dans ce premier partage de la scène, vraiment merci d'avoir donné ta vie, de nous avoir sauvés. Sois glorifié, Seigneur. Amen.
Donc ça y est, 2025, c'est fini. C'est du passé, c'est derrière nous. Et puis nous ne pouvons plus rien faire pour revenir en arrière, hein, bonne ou mauvaise. Elle appartient désormais au passé. Alors il y a une nouvelle année qui commence. Et la question qu'on peut se poser, ben, c'est comment l'aborder avec crainte ou avec confiance. Et si on regarde la situation mondiale, il est légitime d'avoir quelques craintes pour l'avenir. Bruit de guerre, enfin, c'est plus que des bruits, ça pétarade de partout. Situation économique peu florissante, sécurité grandissante, le climat qui s'affole, enfin plus rien ne va. Et à peine commencé, ben, déjà les drames font la une de nos journaux d'actualité. Mais alors on ne va pas lire nos journaux, on va prendre la parole. Et on va l'ouvrir dans le psaume 121 et on va voir ce que le Seigneur nous dit. Alors, c'est un psaume qui est très court, on va le lire en entier. Il n'y a que 8 petits versets. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Alors qu'une nouvelle année commence, débute pour nous, le verset de ce psaume nous place devant un choix. Il y a dans cette simple déclaration tout un message, une exhortation à regarder dans la bonne direction à celui qui procure le secours. Alors manifestement, l'auteur de ces lignes était dans la détresse, sinon dans la crainte. Et je pense que nous pouvons nous reconnaître et confesser que nous aussi, on peut parfois, peut-être assez souvent, nous trouver dans la crainte face à un avenir incertain ou à un lendemain inconnu. Alors, où chercher le refuge ? Et est-ce que c'est dans toutes les propositions que l'on peut avoir dans ce monde pour nous garantir une vie meilleure, plus de loisirs ? Est-ce que c'est une bonne assurance vie pour nous garantir nos vieux jours ? La parole répond par la bouche du prophète Jérémie. Jérémie 17, 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Et puis le prophète Ésaïe a aussi donné un avertissement identique en employant des images, une autre image. Et au chapitre 36, verset 6, il écrit « Voici, il parle d'Israël, qui a placé sa confiance dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, on pourrait dire tels sont les soutiens du monde, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confie en lui. » Et on peut noter que ce premier verset du psaume 121, il commence par « Je lève les yeux vers les montagnes ». Donc c'est un choix qui est personnel, qui doit être renouvelé chaque fois que cela est nécessaire. « Je lève les yeux vers le Seigneur pour le rechercher, pour m'assurer de sa volonté et pas prendre un chemin dans lequel il ne pourrait pas m'accompagner ». Et la seule réponse à cette interrogation, d'où me viendra le secours, c'est le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et dans son commentaire biblique, MacDonald commente ainsi ce verset. Le temple de Jérusalem était la demeure de Dieu sur terre. La nuée glorieuse qui remplissait le Saint des Saints indiquait la présence de Dieu au milieu de son peuple. La ville de Jérusalem est située sur une montagne et elle est environnée de montagnes. Quand un juif de n'importe quel coin du pays avait besoin de secours, il levait les yeux vers les montagnes. Pour lui, c'est la même chose que de lever les yeux vers le Seigneur, puisque la demeure du Créateur se trouvait sur la montagne de Jérusalem. Donc dans un style poétique, le secours venait de la montagne. Et dans le psaume 90, là, c'est Moïse qui exprime sa confiance en Dieu par ces mots. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et dans ce court verset, il nous rappelle avec force que le Seigneur ne refuse pas son secours si nous regardons à lui. Il répondra sûrement, mais à sa manière et en son temps. Et quelle certitude, le secours, il vient du Créateur, de celui qui nous a formés, qui nous connaît parfaitement, et donc qui ne va pas faillir dans sa protection. Il nous gardera avec certitude à 100% durant cette année. Le verset 3, on l'a lu, du psaume 121, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Voilà une belle année pour cette année qui commence. Il ne sommeillera point, il ne permettra point que ton pied chancelle. Alors peut-être que cette déclaration, elle semble contradictoire avec notre propre expérience de chaque jour. Je suis sûr que nous pouvons tous témoigner. On peut parfois être chancelant, découragé, manquant de foi, parfois incrédule, lorsque les circonstances sont contraires. Pourtant, si nous marchons dans les voies de Dieu, c'est peut-être ça le secret, être tout près du Seigneur, il promet son secours, sa présence, son soutien. Ton pied ne chancellera point. Alors le pied, il nous sert à avancer dans ce monde. Ce sont eux qui nous portent. Et Dieu, dans sa parole, veut donc nous éviter les faux pas, les chutes. Et on pourrait citer ce verset bien connu du psaume 91, qui exprime une pensée un peu similaire avec d'autres mots. « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » On sait, une chute peut faire du mal, blesser, tout comme les épreuves, la maladie, perte d'un être cher, un deuil. Eh bien, le Seigneur peut nous garder, nous préserver de toute chute, mais il peut aussi nous relever, nous rétablir, nous remettre debout, physiquement, psychiquement, moralement, spirituellement. C'est ce qu'il a promis dans l'épître de Jacques, par exemple, concernant la maladie. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Remarquez, il n'est pas dit le guérira. La parole reste, le Seigneur est prudent dans ce qu'il nous dit. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Et David exprime très clairement cette pensée dans le psaume 37, verset 31. On peut lire à partir du verset 29. Les justes posséderont le pays. Ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. C'est important de mettre ces deux bouts de phrase en rapport. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. L'auteur du psaume 112 lui fait un lien entre le secours de Dieu et l'attitude de l'homme dans sa marche de tous les jours. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancellera jamais, la mémoire du juste dure toujours. Et le psaume entier, si vous pourrez le lire, développe cette pensée, le psaume 112. Et puisque nous sommes dans les psaumes, on va tourner la page, quelques pages pour aller au psaume 119, selon vos psaumes que vous connaissez tous par cœur, qui nous parle de la parole de Dieu, des commandements du Seigneur. Psaume 119, verset 165. « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut éternel et je pratique tes commandements. » Là encore, il y a une relation claire entre aimer la loi de Dieu et puis la paix qui nous est donnée. Et nous pourrions encore citer bien des textes de la parole qui expriment cette pensée, que le Seigneur veille et prend un soin particulier sur ceux qui marchent dans ses voies. Comme par exemple le Proverbe 10, 33, « Le juste ne chancelle jamais. » Alors on pourrait se dire que peut-être ces belles promesses sont pour quelques privilégiés, pour Moïse, David, Salomon, qui ont écrit ces textes, ces paroles. Et c'était pour avant, pour le peuple juif. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Alors on peut regarder dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, puis voir à qui s'adresse Jude. Au verset 1, il est dit qu'il écrit « à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ ». Ceux qui ont été appelés, aimés en Dieu et gardés pour Jésus-Christ. Donc je pense qu'on se sent concerné. Et à cela, il dit, « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. À celui qui peut vous préserver de toute chute. » On a donc un chemin tout tracé, et si nous désirons marcher de tout cœur dans les voies du Seigneur, on a la promesse, c'est écrit dans la parole, qu'il nous gardera et ne permettra pas que nos pieds chancellent, soient ébranlés cette année. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ça, c'est le verset 4. Évidemment, en lisant ce verset, on pense tout de suite à l'épisode entre Élie et les prophètes de Baal. Vous pourrez lire ce récit dans 1 Roi 18, et comment Élie, avec beaucoup d'ironie et de moquerie vis-à-vis des prophètes de Baal, puisqu'il prétendait que leur Dieu dormait. Mais il n'en est pas de même de notre Dieu. Le Seigneur a les regards sur chacun d'entre nous, et aussi collectivement, là il parle d'Israël, mais il veille sur son peuple, dans le contexte du peuple d'Israël, et d'ailleurs toute l'histoire démontre que Dieu a gardé un œil sur son peuple, et que toutes les nations qui ont cherché dans l'histoire, ou qui chercheront à anéantir le peuple juif, feront l'expérience de Zacharie 2,8 qui dit que celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Et aujourd'hui, le Seigneur veille également sur son Église, pour laquelle il s'est livré, ça a été rappelé tout à l'heure, et Éphésiens l'atteste, Éphésiens 5, 25, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc le Seigneur veille sur chacun individuellement, mais il veille aussi sur son Église, sur l'Assemblée. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alors quelle est la caractéristique principale de l'ombre? Déjà, plus le soleil brille, en principe, plus l'ombre est visible. Et puis surtout, il n'est pas impossible de s'en défaire. Vous avez beau essayer de courir plus vite ou de ralentir, elle n'est jamais loin derrière, et puis elle ne passe pas devant. Elle est toujours là, jamais en retard ni en avance, mais à votre côté. Et le Seigneur non plus ne peut pas être mis en défaut. Sa promesse est formelle, il est comme ton ombre à ta main droite, présent à tes côtés quand le soleil de l'épreuve, du découragement, de la compréhension peut nous blesser. Et est-ce qu'il n'a pas promis par la bouche de son serviteur Paul qu'aucune tentation qui nous est survenue a été inhumaine? Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés ou au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter tentation ou épreuve, bien sûr. Il te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce sont les versets 7 et 8. Dans ces deux courts versets, le mot « garde », il est prononcé trois fois. Trois promesses qui nous rappellent que Dieu ne retire pas ses yeux du juste. C'est ce que dit Job. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Et ces belles promesses devraient nous pousser à demeurer près du Seigneur pour faire l'expérience de cette protection que le Seigneur promet à ceux qu'il aime. Or, quel est le plus grand mal que l'on puisse redouter? Est-ce que c'est la maladie? La mort? Est-ce que ce n'est pas, pour un chrétien, le péché qui nous prive de la communion avec Dieu, avec les frères et sœurs, et qui nous tient loin du chemin de la communion et de la bénédiction? Vivre en communion ininterrompue avec le Seigneur, est-ce que ce n'est pas la plus grande bénédiction qui pourrait être la nôtre durant cette année? Le Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Là, il est bien marqué « Garde ». Ça, c'est ma responsabilité. Le Seigneur fait la sienne, mais il nous demande aussi de faire notre part. Et dans le contexte, bien sûr, ce beau psaume 121 est une prière pour demander la protection du Seigneur sur le voyage, durant le déplacement de ces pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Et ça peut être une bonne chose aussi, dans nos propres vies, de prendre l'habitude de remettre nos déplacements, nos affaires de chaque jour entre les mains de Dieu. Le Seigneur s'occupe aussi des aspects très matériels de notre vie. Et d'une façon plus générale, Dieu voudrait nous accompagner dans tous les aspects, les circonstances de notre vie. Cette assurance de la garde bienfaisante de Dieu à nos côtés, c'est évidemment très, très rassurant. Il désire accompagner son enfant dans tous les projets et les étapes de sa vie. Mais un commentateur de la parole, M. Kidner, il fait remarquer ici que parfois les épreuves, les persécutions, sont aussi le lot des chrétiens. Et il rapproche de ce texte Luc 21,16. Et Luc 21,16 nous dit « Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous. » Ça ne semble pas être la bénédiction, ça. « À cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de vos têtes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Donc il y a aussi parfois dans la vie du chrétien des épreuves, des persécutions, parfois très dures. Nous avons la promesse qu'il gardera notre âme à travers toutes les difficultés et tous les dangers de la vie qui peuvent être devant nous. Notre Dieu sait combien facilement nous pouvons être ainsi perturbés ou découragés par ce qui nous arrive. Aussi, il nous a donné ce beau passage de Philippiens 4,6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne les gardez pas. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis le chrétien, il a surtout les promesses pour l'éternité. L'épître Pierre, lui, dirige nos regards vers le ciel, au-delà de cette terre. Et là, c'est évidemment, c'est tout différent quand on considère l'aboutissement du pèlerinage terrestre. C'est là ce qui fait votre joie, dit Pierre, 1 Pierre 1,6. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, mais afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et quelle espérance est la nôtre de pouvoir marcher avec cette promesse. Cheminer en compagnie du bon berger. Avoir l'assurance que durant cette année, il va prendre soin de ses brebis, à condition qu'elles suivent la voie du berger. C'est Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravivra de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ainsi, nous avons dans la parole cette promesse que l'ensemble de nos circonstances, de notre avenir, sont entre les mains de notre Dieu. Notre vie entière jusqu'à l'éternité. Il nous gardera en tout et nous conduira au port. Et ça, ça doit donner évidemment une grande confiance. À la fin de sa vie, Paul, qui savait qu'il allait partir en martyr, et c'était sans doute pas c'était un chemin vraiment très difficile, il a pu dire avec assurance « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » 2 Timothée 4,18. À travers un chemin qui fut parfois très rude, difficile dans sa vie, il avait appris à se confier entièrement en Dieu. Il avait appris à découvrir la fidélité du Seigneur. Et il se peut que le royaume céleste soit atteint à travers des circonstances éprouvantes, mais la promesse est que nous l'atteindrons. La sortie de la vie d'ici-bas et l'entrée dans la vie éternelle reposent dans les mains du Seigneur. David il a pu donner ce témoignage. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, » c'est psaume 23, vous le connaissez, « je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » M. MacDonald commande ce verset ainsi, « Nous n'avons pas non plus à redouter la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune raison de craindre, car le berger est avec nous. L'aiguillon de la mort, c'est le péché non confessé et non pardonné. mais Christ a ôté l'aiguillon de la mort pour le croyant. Il a éloigné nos péchés, une fois pour toutes. Désormais, la pire chose que la mort puisse nous faire est en réalité la meilleure qui puisse nous arriver. C'est pourquoi nous pouvons chanter « Ô mort, ô sépulcre, je ne crains plus ton pouvoir, la dette a été acquittée. Ô Jésus, en cette heure tragique et noire, nos péchés ont été expiés. » Et il conclut ainsi « Il est vrai que les chrétiens ont une certaine appréhension en pensant aux souffrances qui accompagnent souvent la mort. Comme un saint des temps passés l'a joliment déclaré, peu importe que le Seigneur détruise ma tente, pourvu qu'il le fasse avec douceur. » Alors nous avons les promesses de la parole pour ce nouveau départ. Rentrer dans une nouvelle année, c'est un petit peu un nouveau départ. Le Seigneur, il est fidèle. Nous savons que sa parole est vraie. Nous serons encouragés chaque fois que nous pourrons relire ce beau psaume 121. Alors en regardant au Seigneur, je peux vous souhaiter à tous une bonne année 2026.
On connaît tous ce psaume 121, hein ? Mais je me suis aperçu que je le connaissais surtout dans ma tête. Mais quand il devient une réalité dans le cœur, ça change tout. Il faut qu'on se rappelle qu'on a un Seigneur qui est vivant. Tout est là. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Alors, que le Seigneur grave ses paroles dans notre cœur et qu'on puisse marcher avec sûreté, avec paix, avec confiance dans le chemin qu'il a déjà tracé d'avance pour nous.
Ô mon Dieu, mon Père, te remercier de ce culte en cette nouvelle année. Et tu nous as transmis le psaume 121, de toujours être à tes côtés, afin de grandir et de grandir. De prendre soin aussi de tous les absents là où ils sont, de les garder et encore de les renouveler dans cette nouvelle année. Merci Seigneur et Amen.